28 entrées pour la dernière séance. Reste pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner.
Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées.
Ce film ne passera pas à la TV.
Il n'y a pas de souci. T'en fais pas pour ça.
Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo. Il n'y a pas de malaise.
Bienvenue sur Le Grand Silence, le podcast du cinéma souterrain. Le podcast des films dont personne ne parle autour de la machine à café ou au travail, sauf vous. Et peut-être, vous devriez en parler moins, car on commence à vous regarder bizarrement. Dans ce podcast, nous ne parlerons pas de karaoké avec Michel Larocque et Claudia Tagbo, même si nous le voudrions. Nous ne parlerons pas des chèvres de Fred Cavaillé, même si sa filmographie est un point de douleur pour certains d'entre nous. Nous ne parlerons pas de Dune deuxième partie. Nous ne parlerons même pas de films de réalisateurs que l'on apprécie ou dont au moins nous sommes curieux, comme Nicolas Boukrieff ou Anne Fontaine. Tout ça, c'est trop commercial. Par contre, dans ce numéro, nous allons vous parler en long, en large et en travers de Rien ni personne de Galien Guibert. Nous avons eu la chance de parler avec le réalisateur et le co-scénariste du film qui nous raconte tout sur la manière dont on arrive à faire un film qui a vraiment de la gueule avec des moyens limités. Mais aussi sur comment on travaille le scénario pour accorder ses idées à son budget et comment on fait pour faire un film noir qui ne ressemble pas aux millions de films noirs qui sont sortis auparavant. Nous voulons dans ce podcast parler de réalisateurs qui n'ont pas peur de parler avec leur propre voix et qui prouvent que ce n'est pas parce qu'un film ne vise pas le plus grand public qu'il est forcément chiant. Je suis Benjamin et je suis accompagné, voire soutenu, voire porté sur ce podcast par Paul et Martin. Donc bonjour Paul.
Bonjour.
Et bonjour Martin.
Bonjour.
Notre émission est divisée en deux parties. Dans une première partie, on va vous parler de ce qui sort au mois de mars. Nous avons retenu trois films en particulier, mais si vous regardez bien dans la description du podcast, vous trouverez un lien vers une playlist qui contient les bandes-annonces de nombreux films qui risquent de passer inaperçus. Et ce serait bien dommage parce qu'il y a pas mal de pépites là-dedans.
Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. Et partez pas sans votre dossier de presse.
Donc, trois films. On va vous parler de Tiger Stripes, de Amanda Nell U, je sais pas comment on prononce. On va vous parler de La jeune fille et les paysans de Deke et Hugh Welshman. Et on va vous parler de Holly de Finn Troche. Donc, je propose qu'on commence par Holly. Donc, je donne la parole à Paul. Alors, avant qu'il nous parle du film, je vais juste faire la pause bande-annonce.
Yeah, but skip, Mins.
So are they, I think.
Maintenant que vous avez entendu un extrait de la bande-annonce, je vous lis le résumé Allociné pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc, Holly est perçue comme une fille étrange par ses camarades de classe jusqu'au jour où se révèle son don de soulager les gens de leur chagrin. Dès lors, son énergie cathartique est recherchée par tous. La frontière entre aide et abus va bientôt s'estomper. Sainte ou sorcière, le destin étonnant d'une héroïne sanctifiée malgré elle. Et donc maintenant, je passe la parole à Paul qui nous dit tout le bien qu'il pense de ce film. Voilà.
Ouais, alors c'est résumé assez étonnant de la part d'Allociné, peut-être. Enfin, Allociné, je crois que c'est le distributeur de toute façon qui... Enfin, Allociné récupère les synopsis du distributeur. Puisque, disons, moi j'aurais, disons, présenté le film autrement, à savoir... Holly, c'est une jeune lycéenne, donc une jeune fille très mal dans sa peau, assez renfermée sur elle-même, dont les gens se foutent gentiment de la gueule un peu tous les jours. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un matin, elle va appeler le lycée de chez elle pour lui dire « Désolé, je vais pas venir, j'ai un mauvais pressentiment ». Et tant mieux pour elle, puisqu'il y a eu ce jour-là un incendie dans l'établissement, incendie qui a tué quand même quelques camarades lycéens. Et on suit surtout plusieurs mois après cet incendie, où clairement le deuil ne s'est pas fait, c'est encore très douloureux pour tout le monde. Et autour de Holly va se faire une espèce de figure, elle va un peu représenter une figure qui a pu sentir venir la chose arriver. Alors il n'y a pas de suspense sur est-ce que c'est elle qui a cramé le lycée ou quoi, pas du tout. C'est vraiment centré sur quelque chose comme si c'était comme si elle a été Nostradamus, enfin comme s'il avait eu un don mystique qui lui a permis d'anticiper ça. Et effectivement, il y a aussi cette chose qui est que, en fait, quand les gens la touchent, ils sont débarrassés de leur chagrin instantanément. Et le film est assez étonnant, parce qu'il ne s'attarde pas spécialement sur un thème pendant très longtemps. Ça change de temps en temps. À un moment, il y a une histoire d'argent. À un moment, il y a une histoire un peu, peut-être, de jalousie. C'est vraiment un pitch très bien exploité par le cinéaste, donc, dont je n'ai absolument rien vu d'autre. C'est vraiment une découverte pour moi. Et la réalisation est assez classe, c'est très bien joué. Et la musique est de Johnny Jewell. Donc, pour ceux qui connaissent, Johnny Jewell, c'était le gars derrière le groupe Glass Candy. Et derrière beaucoup de titres, de morceaux, électro-vintage. Enfin, je ne sais pas exactement c'est quel style de musique. Mais,
si je ne me trompe pas, Johnny Jewell, c'est lui qui dirige le label...
Italians Do It Better.
Ouais, Italians Do It Better.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Et qui avait fait une fausse bande son entre guillemets pour Drive. Parce qu'au départ, il devait faire la bande son. Finalement, ça a été giclé par FN au montage. Et le truc est sorti à côté. C'est hyper bien. Voilà.
Ouais, et alors, c'est pas sa première BO de film, je crois. Enfin, je parle de Holly. Il avait déjà fait, il me semble, oui, un truc de Home. La bande originale de Home, qui est du même réalisateur. Et petit truc un peu étonnant, enfin une coïncidence, il y a un film qui est sorti là, que je n'ai pas vu, sans jamais nous connaître. Mmh. Un film anglais.
Ouais.
Et dont alors je ne l'ai pas vu, mais le film se termine sur la chanson The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Et là, Holly se termine par la même chanson, reprise par Johnny Jewell. Pour la petite astuce.
Cool.
Donc, sans jamais nous connaître, dont on m'a dit le plus grand bien, mais dont on m'a aussi dit que c'était vraiment, vraiment triste.
Oui, il paraît, ouais.
Alors, dites-moi, Paul, dans la bande-annonce, il est dit que le film est produit par des gens qu'on n'attend pas là-dedans.
Oui, alors, c'est produit par les frères Dardenne. Alors, donc effectivement, Holly, c'est un film belge, alors côté flamand. Pour le coup, pas wallon. Mais alors, les frères Aden, j'ai un peu découvert aussi qu'ils avaient toute une carrière de producteurs que je trouve personnellement plus intéressante que leur carrière de réalisateur, puisqu'ils avaient produit...
Ça balance.
Ah, ça balance. Bowling Saturn de Patricia Mazoui, ils l'avaient produit, donc un film quand même très étonnant et très bien stylé. Et ils avaient également produit Animal, donc de Nabil Ben Yadir, qui est totalement passé inaperçu chez nous, mais en Belgique beaucoup moins, puisqu'il s'agit d'un film tiré de Ferret, d'un fait divers assez atroce, et dont le film montre toute la violence, enfin, pas toute la violence évidemment, mais essaie de faire rendre compte de la violence, un peu comme, je sais pas, disons qu'il y a peut-être une violence assez édulcorée au cinéma en général, sans critiquer les films en question, mais voilà, il y a ces films-là, Salaud de Pasolini, Funny Games, Irréversible, qui ont une violence très choc, très rude. Bon, Animal en fait partie. Et avec Holly, on est dans un espèce de drame fantastique. Alors, j'ai pas mal pensé à Incassable de M. Night Shyamalan. On n'est pas sur le même truc de super-héros, hein, évidemment, mais il y a vraiment deux points communs qui m'ont fait penser à ce très beau film avec Bruce Willis.
Le meilleur de Shyamalan, pour moi.
Ouais, clairement.
Question Paul. Une jeune femme qui absorbe la peine par l'imposition des mains, est-ce qu'il n'y a pas un côté nature et découverte là-dedans, mysticisme, New Age, tout ça? Rassure-moi.
Non, ça va, t'inquiète. elle ne vend pas des pierres à 100 euros après, à la fin. Il n'y a pas de souci.
Putain, merci pour le spoil.
Quelque chose à rajouter ?
Non, pas spécialement.
Eh ben, du coup, je vais prendre la main et je vais continuer. Holly, ça sort le 6 mars. Et donc, on va passer à la semaine suivante, le 13 mars, avec Tiger Stripes de Amanda Nell Eu, ou E, je ne sais pas comment on prononce, je ne suis pas malaisien. Bande-annonce.
Dekat Facebook saya memang banyak testimoni.
Mana tahu di balik nanti.
Donc, le résumé Allociné. Zafan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante. Ses amis se détournent d'elle alors que l'école semble sous l'emprise de forces mystérieuses. Comme un tigre harcelé et délogé de son habitat, Zafan décide de révéler sa vraie nature, sa fureur, sa rage et sa beauté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film ? Eh bien, je ne sais pas trop. Et justement, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, pour le coup, je me perds en conjecture suite à la vision de la bande-annonce. Il y a plusieurs éléments. Alors, il y a un premier élément, c'est que c'est un film qui a eu le Grand Prix de la Semaine de la Critique. Donc, on ne sait pas si c'est gage de qualité ou pas, mais disons qu'au moins, dans une sélection où il y avait des films qui ont été plutôt remarqués, celui-ci est sorti numéro 1, c'était le grand gagnant. Deuxième chose qui est assez intéressante, c'est le côté qui marche toujours bien du fantastique avec une jeune femme qui découvre son corps. Et dans la bande-annonce, on voit qu'elle est la première à avoir ses règles parmi ses camarades, qu'on est dans un milieu où on n'en parle pas trop. Donc moi, ça me fait immédiatement penser à Carrie, au bal du diable. Et je ne sais pas du tout si c'est cette direction-là que ça prend ou pas. C'est un film malais, on ne connaît pas grand-chose du film du cinéma malaisien, honnêtement, moi je n'en connais rien. Je ne sais pas si on est plus dans un fantastique à la Apichatpong Verazetakul, avec quelque chose de poisseux et tentaculaire et un peu diffus. Est-ce qu'au contraire, on va être dans un truc très frontal, façon cinéma fantastique indonésien ? Ben, j'aimerais bien, parce que ben, moi j'aime bien le cinéma fantastique indonésien, mais j'aime bien Barry Prima et tout ça. Je suis curieux, voilà. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a des films avec des jeunes filles de communautés rurales malaisiennes qui se transforment en monstres et font des trucs mystérieux, donc... ça donne envie. Ça se trouve, c'est nul, hein, mais j'espère que c'est bien.
C'est la meilleure tagline.
Oui, bah, en fait, comment dire, il y a un truc, moi, qui me fait très, très peur. C'est l'effet « je fais du cinéma d'auteur et je découvre le cinéma fantastique ». Par exemple, les films à la « Ne tourne pas » de Marina Devan ou des choses comme ça. Et c'est vrai que souvent, le cinéma fantastique, ça peut être un côté très... Moi, j'aime pas le cinéma d'horreur, alors j'ai décidé de faire un film fantastique, mais différent, un film métaphore qui interroge ce genre de choses. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu... Ouais, je sais pas, ça a l'air pas mal quand même.
Peut-être que c'est une série Z, comme on en voit dans le film de Verazetakul, Symmetry of Splendor, où à un moment il y a une scène dans un cinéma et c'est une bande-annonce d'un film ultra Z avec des effets spéciaux tout cheap. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène.
Je l'ai pas vue, j'avoue que. J'ai Tropical Malady en DVD depuis des années et j'ai toujours pas regardé.
Ah, moi je l'ai vu, enfin c'est le seul que j'ai vu aussi, mais Tropical Malady, mais voilà. J'avais vu au cinéma quand il était ressorti après la Palme d'Or pour Uncle Bambi.
Mais je sais pas s'il est passé. Enfin bref, ne digressons pas. parce que on se connaît. Là, on va parler de Verzetacul et tout ça, ça va pas. Non, on va pas. Non, stop. Donc, je dis stop. Je dis vive le cinéma fantastique d'Asie, des pays qu'on connaît pas. Et je donne la parole à Martin qui va nous parler de La jeune fille et les paysans qui sort le 20 mars.
Yagna Dominikova, ravissante et talentueuse. On ferait peut-être bien de la marier à un riche veuf.
Je suis très heureuse là où je suis.
Prends ça, je l'ai acheté pour toi.
Non, je peux pas accepter.
Prends-le, Yagna.
C'est lui le fermier le plus riche du village, non ? Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre, c'est évident !
Tu vas épouser ce vieux ?
Tu crois que j'ai mon mot à dire, peut-être ?
Au XIXe siècle, dans un village polonais en ébullition, la jeune Yagna, promise à un riche propriétaire terrien, se révolte. Elle prend son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi. Commencent alors les saisons de la colère. Martin, c'est à toi.
Donc, moi, La jeune fille et les paysans, c'est un film qui m'intéresse déjà pour des raisons un peu personnelles, parce que c'est un film qui est adapté d'une œuvre phare de la littérature polonaise. Et dans ma famille, j'ai des origines polonaises, donc ça m'intéresse toujours de découvrir la culture polonaise. Et voilà, et donc c'est un film qui est une adaptation du roman Les Paysans de Władysław Reymont. C'est un auteur très très important de la littérature polonaise du début de la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et pour vous donner une idée de l'importance de la personne, il y a deux faits. Le premier, c'est qu'il a donné son nom à un aéroport, l'aéroport de Łódź. Donc déjà...
Pas mal.
Oui.
C'est un bon niveau de notoriété.
C'est bien. Ouais.
Et deuxièmement, il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1924, donc un an avant son décès, et qu'il l'a quand même eu en battant Thomas Mann, George Bernard Shaw et Thomas Hardy. Ça donne une idée du level, si vous voulez.
Prends ça, Thomas Mann.
Bam.
Voilà. Et donc voilà, c'est un classique de la littérature, et donc la co-réalisatrice du film, Dorota Kobiela, disait que c'était un livre que tout le monde lisait au lycée quand elle était lycéenne, quoi. Donc ça doit être encore le cas maintenant, ça doit être l'équivalent du Père Goriot ou de la Princesse de Clèves, hein, de ces romans que tout le monde a lus au moment où on approche du bac. Et voilà, et donc elle a eu envie de travailler sur ce film, alors qu'elle travaillait sur son film précédent, qui était La Passion Van Gogh, qu'elle a fait avec Hugh Welshman. C'est un film pour lequel elle reprend le même principe qu'il y avait dans Passion Van Gogh, c'est-à-dire qu'il y a les films sont filmés d'une façon assez particulière par un principe de rotoscopie. Il filme avec des vrais comédiens et il y a une technique, il y a des techniques de post-production qui permettent de donner un rendu de peinture pour Van Gogh. C'était de peinture à la Van Gogh, quoi. Tout ce qu'on voyait était comme des peintures de Van Gogh animées ou voilà. Et là, ils ont repris le même principe pour raconter cette histoire. Et voilà, et donc c'est un film que je trouve intéressant, cette illustration d'un récit ultra classique, mais qui est raconté avec une technique particulière. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de rotoscopie. Donc, je crois que l'exemple, Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, c'était filmé comme ça aussi.
Ouais, Ralph Bakshi qui a usé de rotoscopie.
Ouais. Ouais, voilà. Et il me semble aussi le... je vais avoir un trou de mémoire.
Scanner Darkly aussi, non ?
Voilà, c'est ça. C'est le titre que je cherchais. À Scanner Darkly, je cherchais le nom du réalisateur, mais voilà, c'était.
Richard Linklater.
Absolument. Et voilà, et donc c'est donc un film que j'ai envie de voir pour ma culture personnelle. Et aussi, ça fait aussi partie des films qui ont traversé plusieurs. Qui ont eu plusieurs problèmes de production. Le premier, c'est qu'ils ont commencé le film juste avant la pandémie de Covid-19. Donc ça, il y a énormément de films qui ont eu le même problème. Mais une fois qu'ils ont pu relancer le film, il se trouve que la plupart des artistes qui travaillaient sur le film, leur studio était en Ukraine.
Oups.
Voilà.
Aïe.
Donc, il y a eu une production un peu compliquée, on vous le cache pas. Et voilà. Et donc,
j'essaie de
film,
tourner une super production en Ukraine, ça tourne mal.
Voilà.
Non.
C'est un peu l'idée. Et voilà. Et donc, c'est un film pour lequel je suis vraiment très curieux et que j'ai vraiment envie de voir en salle pour l'expérience artistique. Parce que c'est un peu comme ça que les deux réalisateurs se sont rencontrés et que leur histoire artistique et personnelle a commencé. Parce que Hugh Welshman, c'était un réalisateur qui avait fait essentiellement du court-métrage jusque-là. Et Dorota Kobiela, elle sortait des Beaux-Arts de Varsovie, il me semble. Et voilà. Et donc, c'est la fusion entre deux cultures, le cinéma et la... Et les arts picturaux, la peinture, etc., qui donne un résultat qui, à mon avis, est à voir en salle. Et voilà.
Après, ce que je me dis, c'est qu'il y a une utilisation du dessin animé qui est doublement intéressante. Tout d'abord, parce que c'est un peu comme le dessin animé sur Louis Buñuel qui était sorti il y a quelques temps.
Louis Buñuel après l'âge d'or, ouais.
Voilà, Louis Buñuel après l'âge d'or. Où le dessin animé permettait de... Enfin, le film était globalement réaliste, mais le fait de tourner en... de faire ça en dessin animé permettait, un, de gagner beaucoup d'argent par rapport à un film en costume et en décor qui aurait été très compliqué à réaliser, et ça permettait de mêler les séquences oniriques et les séquences réalistes assez facilement, sans se poser la question des effets spéciaux, etc.
D'amener le surréalisme, quoi.
Tout à fait. Et là, pour le film sur Van Gogh, comme là, sur la jeune fille et les paysans, dont l'esthétique a l'air d'être un peu impressionniste, un peu tableau de la fin du 19e siècle, ce que je me dis, c'est que c'est l'idée d'avoir une imagerie qui correspond à l'univers pictural que les romanciers avaient peut-être en tête, en fait. Alors que fondamentalement, c'était un peu cette esthétique-là qu'on pouvait retrouver dans l'art visuel. Et donc le fait de faire coïncider l'art visuel de l'époque ou de le reproduire avec un livre de l'époque, c'est un peu intéressant. Enfin, ça peut être intéressant en tout cas.
Non, je suis d'accord.
Ah oui, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, ouais.
Avec évidemment le risque de faire quelque chose façon Atelier des Lumières, les grosses expos avec des trucs projetés sur les murs avec de la musique planante. Mais j'ai l'impression que c'est quand même fait avec goût.
On espère.
Eh ben super. Là, on a bouclé les bandes annonces en deux temps, trois mouvements, paf, paf, paf.
Wow.
De l'info que de l'info.
Même pas une demi-heure.
Wow.
Même pas une demi-heure. Et donc, pour retrouver d'autres bandes annonces, hein, je vous invite vraiment à cliquer sur la playlist qu'on a préparée, sachant que vous allez voir, il y a des très très belles choses. Il y a des films directs to Netherlands. Là, il y a L'ennemi public numéro 0. Et qui a l'air d'être un film très très étrange avec une apparition de Daniel Evnou. Et on a aussi L'attaque du bloc d'or d'Olivier Goujon. Olivier Goujon qui est un réalisateur qui nous interpelle beaucoup, puisque c'est un réalisateur ultra underground qui a l'air de tourner énormément. Il a fait un film qui s'appelle Ménestrel qui avait fait un tout petit peu parler de lui. Et là, ça a l'air d'être un polar façon La Mentale, un peu, de Bibi Nasseri. Ça a l'air très, très bien. Mais,
ouais. Il a l'air très, très prolifique, le Olivier Goujon. Il avait fait un documentaire qui s'appelle Penser à demain, qui est un peu genre, comme justement le penser sur la transition écologique, ou même des thrillers, et Ménestrel, hein, qui est une comédie... pas d'Heroic Fantasy, mais comment on dit
Ouais, à la Camelot, hein, on disait, ça avait l'air d'être un peu Camelot du pauvre.
Et il a fait aussi Kill Dating, qui a l'air d'être un peu un film d'horreur, limite slasher. Enfin, qui a l'air, hein. Peut-être que c'est pas ça. Hein.
Donc on est sur le coup. On est sur le coup, hein. Si on arrive à voir ça, on vous en parlera certainement. Il y avait aussi... Enfin bref, vous verrez, il y a plein de choses, parce que évidemment... Si je vous en parle, je vais avoir envie d'en parler en long, en large et en travers. Mais je ne vous dis que ça, et même qu'il y a un film de Christine Angot. Donc il y a beaucoup de choses très belles.
Et il y a le premier long métrage avec Francky Vincent qui sort aussi en mars.
Yes!
C'était un rêve à réaliser.
C'est dans la peau de Blanche Gardin, non? Où il y a Francky Vincent?
Dans la peau de Blanche Houellebecq, ouais.
Blanche Houellebecq, ouais. Dans la peau de Blanche Houellebecq, ouais. Film qui, de ce que j'ai compris, est malheureusement un peu décevant.
Oui. J'aime beaucoup Guillaume Niclou, qui enchaîne les projets. Hein. Ça fait là, c'est son troisième film qui sort en un an, et il est en train de tourner le prochain, déjà. Voilà. Et quatre films extrêmement différents. Hein. Un film d'horreur, un drame, donc c'est une grosse comédie, et le biopic de Sarah Bernhardt, que j'attends.
Ok.
Quand il sortira.
Donc voilà, et puis dernier truc dont il fallait que je parle quand même absolument, c'est qu'il y a pour les fans de Nickelback, il y a un documentaire sur Nickelback qui sort, mais malheureusement seulement sur 2 jours. Donc pensez vraiment à bien réserver votre séance, c'est très important parce que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas sur votre groupe préféré.
Ouais, j'étais très chaud pour en parler, mais bon.
Bah, on était tous très chauds, mais malheureusement, bon, il passe que 2 jours, alors bon...
On n'a pas besoin de recommander ça, tout le monde va se ruer voir ce film, ce sera un raz-de-marée, tous les cinémas refuseront du monde.
Je pense que c'est comme le Godzilla qui était sorti en 4DX et qui, suite au succès, a été ressorti en version normale.
Ou This Is It, le truc de Michael Jackson qui devait rester qu'une semaine et puis finalement...
C'est sûr.
Voilà.
Il n'y a pas de film, le cinéma est mort. Il ne peut plus y avoir de film. Passons, si vous voulez, au débat.
Alors, donc, on parlait de Guillaume Niclou qui sort un film toutes les semaines et du fait qu'il devrait passer plus de temps sur ses scénarios. Transition parfaite pour vous parler de notre dossier. Puisque c'est un. Donc, on va vous parler maintenant de Rien ni personne. Rien ni personne, film qui a connu une gestation un petit peu compliquée, avec beaucoup de versions du scénario. Un gros travail qui a été fait pour que ce soit le plus. Le droit, je ne sais pas comment on peut dire, mais direct possible. Donc, bande-annonce.
J'en ai marre. C'est tout seul. J'ai envie d'arrêter. J'en peux plus. Cette vie de merde.
Cette vie de merde, c'est tout ce que t'as.
Tu peux partir quand?
48 heures.
D'accord. Par contre, le fric, j'en ai besoin en avant.
Vas-y, ouvre la porte!
Hey, t'es devenu fou ou quoi?
Ouvre la porte!
T'es déjà mort!
Putain! Merde!
7 kilos, 300 000.
Tu viens avec un enfant comme ça à faire un deal, tu te crois où là?
C'est des dégénérés ces gars, faut faire attention.
Tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Ça doit pas être si compliqué que ça, non?
Quoi?
Un bébé sur le bateau.
Pas sur le mien en tout cas, c'est clair.
Maintenant tu te ramènes avec la caillasse, t'as compris, pingouin?
Je vous baisse et mort à ta vieille!
Hé, hey, il se passe quoi? Tu veux faire quoi?
On part ce soir. Prends-moi mon fils.
Mon fils! Je veux pas qu'il vienne comme moi, tu comprends?
Je ne sais pas ce que tu veux.
Que nous dit Allociné sur Rien ni personne de Galien Guibert, avec Paul Amy, Suliane Brahim et Françoise Lebrun, mais quand même surtout Paul Amy. Orphelin de naissance, Jean décide d'abandonner femme et enfant en croyant les protéger de sa double vie délinquante, mais sa cavale va le ramener à la paternité qu'il fuyait. Un résumé de peu de mots, mais qui dit ce qu'il a à dire, parce que en fait c'est un film qui est très court, hein, qui dure 1h15, et donc du coup si on raconte plus dans le résumé Allociné, c'est plus la peine d'aller voir le film. Donc, disclaimer, la raison pour laquelle on a réussi à obtenir une interview de l'équipe du film, c'est que le co-scénariste du film, Clément Tuffreau, est un excellent ami à moi, vraiment, vraiment excellent ami. Cependant, si le film n'avait pas été bien, on vous en aurait pas parlé, bien sûr. Et surtout, j'aurais été tellement déçu que peut-être j'aurais évité de prendre ces appels, je l'aurais évité, ce genre de choses. Donc, Rien ni personne, qu'est-ce que c'est ? C'est un polar, c'est même un film noir. C'est un film couloir, entre guillemets, c'est un film avec des œillères. Les œillères que se pose le personnage principal, Jean, qui se lance dans une action qui est très simple. Il veut partir le plus loin possible et avec le plus d'argent possible. Seulement, le fait qu'il fasse ce qu'il fait, comme on dit dans Au Sauvage, en faisant ce que vous avez fait, vous n'avez fait que précipiter les raisons qui ont fait que vous avez fait ce que vous avez fait.
C'est le karma.
Voilà, c'est le karma. Et effectivement, le personnage qui est donc joué par Paul Amy, ce n'est pas quelqu'un qui a un bon karma. Et une des choses qui est vraiment intéressante, et peut-être je vais lancer la conversation là-dessus, comme c'est un film noir, en fait, il va déclencher un gros torrent de merde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme on est sur une focalisation interne, on va vraiment assister à la chute des dominos, mais que par la bande et toujours par le regard du personnage. Voilà, je ne sais pas si les collègues veulent rajouter quelque chose par-dessus.
Pour raconter un petit peu le début, Jean est dealer de drogue. Justement, il braque son propre fournisseur pour revendre la drogue à son compte seul, se faire du blé et pouvoir se casser. Sauf que, évidemment, essayer de doubler des organisations criminelles, c'est rarement une idée très saine et très tranquille. Donc le karma se ramasse sur lui, clairement. Disons que ça a l'air, au début, pas d'une action hyper réfléchie, très préméditée. Donc on peut limite voir ça comme quelque chose de franchement kamikaze.
Ouais, la fuite en avant, quoi.
Oui, une fuite assez sauvage.
Et ce qui est intéressant dans cette fuite, c'est que justement, Paul Amy, il porte physiquement cette impulsivité et le fait que... Donc on a un personnage qui se frappe régulièrement la tête, qui se prend, qui s'invective, qui se parle, qui est vraiment très agité. Et donc on sent en fait que c'est un personnage qui va prendre des décisions qui sont pas forcément très bonnes. Et il sait qu'il fait de la merde, mais il faut qu'il y aille, quoi. Il faut qu'il aille au bout de son action. Parce qu'une fois qu'il a lancé le truc, une fois qu'il a, comme dit Paul, braqué même pas les concurrents, mais vraiment chez lui, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière.
Ouais. Oui, voilà, c'est pas possible de faire marche arrière. Et d'espérer un quelconque pardon, quoi que ce soit, non. Il sait très bien que ce qu'il attend, c'est juste la mort. Donc bon, il faut réussir, il n'y a pas le choix.
Et je trouve, moi, que c'est très bien... Toute cette partie-là, surtout, c'est le premier tiers du film, pour moi, qui est vraiment... on est vraiment dans une espèce de confusion, quoi, au niveau de la narration, mais qui est voulu, au fait. Il y a un côté très rythmé, qui est, bien sûr, un effet qui est obligatoire quand on fait un film à petit budget, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop les moyens de s'apesantir sur les scènes. Et là, c'est vraiment... Il n'y a pas de gras, quoi, dans les scènes, quoi. Tu vois qu'il a vraiment filmé le minimum de plans pour raconter chaque scène. Et on a vraiment les informations nécessaires à chaque scène. On passe à la scène suivante. Et au début, on suit la confusion du personnage. C'est-à-dire le gars qui fait son truc et qui, après, doit continuer à aller de l'avant. Il crée de plus en plus de catastrophes, mais il avance. Et puis, jusqu'au moment où il se rend compte que c'est pas si simple et qu'il faut... il commence à se rendre compte que ses actes ont des conséquences, bien sûr, pour lui, mais aussi pour d'autres personnes autour de lui. Et moi, c'est ça que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le film, quoi. C'est-à-dire le personnage qui, petit à petit, prend conscience du monde qu'il y a autour de lui.
Même si, justement, il y a une espèce de métaphore qui est le fait qu'il veut partir en bateau avec le moins de monde possible, etc. Donc, même s'il prend conscience du monde... il a quand même la volonté de focaliser sur le moins possible pour pouvoir repartir à zéro.
Ouais. Bah, de toute façon, ouais, c'est l'idée de la mer. C'est une image assez récurrente dans le cinéma et il y a ce côté page blanche, justement. Mm. Il veut refaire sa vie, littéralement, à partir de rien.
Bah, notamment, ça fait penser à ce chef-d'œuvre de la littérature qui est L'homme qui voulait vivre sa vie de Douglas Kennedy. Hein.
J'ai pas lu le livre, mais.
Moi, j'ai vu le film.
Ouais, ouais. Ouais, voilà, le film, bon, bref. Ouais. Je pensais au film de Michael Mann plutôt, mais voilà.
Oui, on n'est pas au même niveau, là.
Oui, mais, là, on n'est pas au...
Sur l'homme bon, qui voulait vivre sa vie, et ça, non.
Mais ceci dit, donc c'est quelqu'un qui est quand même à un background assez. Enfin, un passif assez marqué par le fait qu'il est orphelin. Et quand même, je veux dire, il était dealer, mais il avait une compagne avec qui il avait fait un enfant. Donc disons que sa vie posée, elle était déjà là. Et il veut tout refaire à zéro. Sauf que, quand même, il se sent une irrépressible, un irrépressible besoin, disons, de s'occuper de son enfant. Et il y a quand même cet élément peu négligeable, à savoir... Il doit s'enfuir avec un bébé, quand même, ce qui complique la tâche.
Oui.
Ouais. Ben ça c'est, alors ça c'est pareil en termes de référence un petit peu cinématographique. Ça m'a fait un peu penser à Locke, c'est ça, avec Tom Hardy.
Oui,
dans
Locke.
Dans le sens,
oui, Tom...
où c'est un personnage qui a grandi comme orphelin. Et du coup, en tant qu'orphelin, il a cette relation compliquée à la paternité. Enfin, Locke, je ne sais plus s'il est orphelin, mais en tout cas, il a été totalement négligé par son père. Il y a vraiment un truc familial hyper compliqué qui fait que quand il apprend qu'il a un enfant qui est légitime, il veut quand même y aller, quitte à se foutre dans la merde par rapport à ça et de tout remettre en cause par rapport à son existence, en fait. Et là, dans Rien ni personne, il y a ce côté... Qu'est-ce que je fais de cet enfant ? Est-ce que du coup je l'abandonne ou pas parce que je m'en vais, parce que je suis en danger, parce que c'est la merde ? Mais en même temps, est-ce que du coup je vais faire ce que on m'a fait quand j'étais enfant ? Il y a vraiment ce. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, c'est quelque chose qui est montré, c'est pas quelque chose qui est dit. Oui. À aucun moment, il y a de scène où le gars, il se dit « Ouais, je suis un orphelin, je t'abandonnerai pas. » Alors que justement, dans Locke, c'était un film qui était extrêmement bavard et qui explicitait tout. Là, pour le coup, ça n'explicite rien. C'est vraiment des choses qu'on comprend petit à petit sur cette relation entre cet homme et son fils.
Ouais, c'est à ça que je pensais quand je parlais du fait qu'au début il veut fuir et puis après il réalise que ça a des conséquences sur les autres. C'est au fait justement, c'est le rapport à son enfant en fait. Le fait que voilà, il est de toute façon lié à cet enfant et effectivement, comme tu disais, il n'y a pas cette scène ultra cliché de ce moment où il va prendre son enfant dans ses bras et lui faire tout un long discours de. Il n'y a pas ça, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, cette narration par l'image et ce besoin d'avancer.
Ouais, parce que c'est vrai que le personnage agit vraiment par impulsion et il est vraiment dans l'action. Et c'est vrai que le moment où on comprend ça, alors c'est. Moi, je vois ça comme. C'est un personnage vraiment cabossé et fragilisé. Et il cherche un peu à réparer cette fragilité en lui en ne reproduisant pas. Ce qu'il a vécu auprès de son bébé. Et c'est vrai que ça passe par cette scène où, donc, à un moment, on sent que. Je crois qu'il hésite, mais il sait pas trop. Et il laisse quand même son bébé à une station-service. Oui. Et finalement, il revient et en fait, il braque les gens qui s'étaient approchés du petit. Et qui sont pas méchants du tout, hein, vraiment. Mais il les braque pour reprendre le bébé. Donc c'est vraiment. C'est très dans le film. Donc c'est. Voilà, c'est assez violent. C'est sec. Pas beaucoup de mots. C'est trois tobus. Et c'est très parlant.
Préparant sans trop parler.
Ouais, ça c'est clair. C'est vraiment une phrase qui résume très bien le film. Peut-être qu'on pourrait encore la rajouter sur l'affiche.
Bah, sur le Blu-ray quand il sortira.
Voilà.
Préparant sans trop parler. Je voulais qu'on parle aussi un petit peu de la réalisation du film. Donc Galien Guibert, c'est son premier long métrage, si je ne me trompe pas. Pour autant, c'est pas un jeune homme. Il a fait deux courts métrages que vous pouvez voir sur sa page Vimeo. On voit qu'il a fait aussi de l'habillage pour France 5. Et en plus, c'est cool parce que j'aimais vraiment bien ces génériques-là. Et il a toute une carrière de graphiste aussi avant. Il a travaillé dans le monde de la bande dessinée.
Et dans le milieu du jeu vidéo aussi, si je ne me trompe pas.
Voilà, et dans le milieu du jeu vidéo. Ouais. Donc c'est des trucs assez intéressants. Et effectivement, visuellement, c'est un film qui a de la gueule, hein, on peut le dire.
Qui est léché, quoi. C'est vraiment léché. Mmh.
Ouais. Est-ce que quelqu'un veut parler de la mise en scène ?
Moi, j'avais bien aimé justement tout le côté très esthétique du film. C'est-à-dire que tu vas avoir des scènes qui vont être tournées où vraiment tu vas voir l'urgence, ça bouge et tout. Et des scènes qui vont être beaucoup plus travaillées. Enfin, l'esthétique va être plus léchée justement, comme on disait. Ça donne un peu des espèces de ruptures de ton qui sont assez... qui dynamisent le film pour moi. C'est-à-dire que... Il y a un côté ligne droite du personnage, mais il passe par plein d'états d'esprit différents. T'as des moments où tu vas avoir une scène où tu vas avoir des éclairés au néon rouge. Voilà, t'as une scène vers la fin avec des fumigènes. Bon, on essaye de pas trop spoiler, bien sûr, mais voilà. Et d'un seul coup, tu bascules dans l'irréel. Et voilà. Et moi, j'avais pensé ça quand c'est quelque chose qui m'a pas surpris, comme j'avais vu aussi son court-métrage Laura, qui était que dans Laura, c'est un personnage qui a des problèmes quotidiens, des problèmes administratifs et tout ça, et qui prend la route et qui se retrouve d'un seul coup dans un univers de survival à la Massacre à la tronçonneuse ou voilà. Et là, justement, il y a, je trouve, même dans un film dont on sait qu'il est à très petit budget, ou que justement ils peuvent pas se permettre de passer énormément de temps sur des scènes pour travailler l'esthétique, il arrive quand même sur certaines scènes, je pense, qui ont été bien ciblées, à vraiment amener quelque chose d'esthétique. Et c'est pas gratuit, c'est pas juste pour faire un jeu de référence. J'ai voulu faire comme chez Dario Argento, comme chez Michael Mann. C'est vraiment, je pense que ça apporte vraiment quelque chose au film.
Même si j'avoue que moi, ça m'a un peu fait penser à du Michael Mann quand même. Ce qui m'y a fait penser, c'est surtout l'utilisation de la lumière et oui. Notamment par rapport à la caméra numérique. En fait, ce mélange entre le grain un peu fort qu'on a dans la caméra numérique et en même temps qui permet de faire des éclairages très travaillés avec peu de sources de lumière. Vu que c'est un film noir, c'est un film qui est relativement nocturne. Même s'il y a quand même des belles scènes aussi en plein jour où on découvre toute la beauté de la baie de Saint-Nazaire.
Qu'on voit très peu dans ce genre de film.
À redécouvrir, hein, Saint-Nazaire. Oui. Jamais dans mon cœur. On voit les blocos, on voit les bateaux, on voit tous les trucs. Mais effectivement, ouais, le travail sur la lumière dans la nuit, avec ça fait très Michael Mann. Et en même temps, on est d'accord, effectivement, et là, vous verrez dans l'interview qu'il y a une volonté d'essayer de se départir des références qui, justement, seraient trop évidentes. C'est que, en fait, même si en termes de lumière ou de choses comme ça, on pourrait éventuellement penser un peu à du Michael Mann, ce qui n'est pas le pire en termes de comparaison quand on parle d'un peu là, au niveau de la construction ou des plans ou des choses comme ça, ça n'a rien à voir, puisque déjà il n'y a pas de Audio Slave à aucun moment. On entend Chris Cornell. Il n'y a pas de scène de douche. Et surtout, oui, c'est pas du tout la même approche, quoi. Il n'y a pas le côté contemplatif que peut avoir Michael Mann ou des choses comme ça. Enfin,
je trouvais que la bande originale était très bien, moi, de Camille Delafont. Et je trouve que ça servait bien le film en apportant parfois un contrepoint, parfois en étant bien en servant bien la scène, j'ai trouvé ça intéressant.
Ouais, non, tout à fait. C'est un film, enfin, il dépeint vraiment un monde très violent, donc vu que lui, c'est quand même quelqu'un qui a tout un réseau un réseau de dealers au cul, c'est vraiment, donc effectivement c'est très très sombre, c'est très marqué, c'est là où il passe, généralement, bon, il peut y avoir des morts. Il réussit à filmer ce truc où il est cerné par ce danger énorme. C'est-à-dire que peut-être le seul moment où il a des relations, des relations sociales avec des gens où ça se passe bien, c'est quand il deal en sortie de boîte de nuit, en approchant les gens innocemment. Je veux dire, même quand il retrouve une vieille connaissance, tu sens que c'est pas hyper réjouissant, clairement. Et j'aime beaucoup le moment où, alors sans trop en parler, sans trop spoiler, ce moment où justement il essaye de faire refourguer toute sa cam et il rentre dans un QG, disons, d'un autre réseau concurrent, on va dire. Et il y a ce truc où il rentre par des grands couloirs et c'est encadré par des mecs et on sent que faut pas faire le moindre faux pas si on veut ressortir vivant. Et ça, c'était en... Il y a vraiment une espèce d'épée de Damoclès hyper présente tout le long du film, comme ça.
Ouais. Clairement, c'est un film sur une personne qui est sous pression.
Ouais.
Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Je pourrais juste rajouter juste une petite chose par rapport à ce que tu disais sur la durée du film. C'est que voilà, moi c'est un truc que j'ai apprécié aussi, le fait que ce soit un film qui soit court. Il y a des films qui sont faits à petit budget où vraiment tu vois qu'ils essayent de rallonger au maximum le film. Et là, c'est quelque chose qui était apprécié de voir que voilà, quoi, que c'est court, que ça va à l'essentiel et que ça raconte l'histoire que ça veut raconter.
Oui, ça c'est clair et net. Moi je pense vraiment que depuis pas mal d'années, il y a vraiment beaucoup de films qui sortent qui sont trop long pour ce qu'ils sont.
Oui.
Dans Rien ni personne, c'est sec, c'est net. Bam. Il y a vraiment des moments où tu peux dire, ok, là, peut-être qu'il aurait pu caler une scène comme ci, comme ça, mais non. Il s'en tient à l'essentiel et ça fait plaisir.
Et ce qui est amusant, c'est que donc le film est co-scénarisé par Clément Tuffereau, donc qui était présent lors de l'entretien, et donc Clément qui est aussi romancier. Sous le pseudonyme de Clément Millian, donc Millian, comme Thomas Millian.
Bonne référence.
C'est un hommage.
Ouais, très bonne référence. Ouais.
Et qui écrit des romans qui ont aussi cette qualité d'être très sec, avec des chapitres qui sont courts et qui vont à l'essentiel, des phrases qui font jamais un mot de trop par rapport à ce que ça veut exprimer. Et qui ont cette même qualité qu'a le film, de ne jamais avoir l'air cheap, en fait. Enfin, comment dire ? C'est pas parce qu'on fait un film court, c'est pas parce qu'on fait un film qui a pas beaucoup de moyens que c'est un film qui doit être cheap. C'est un film qui est vraiment bien foutu, qui en donne pour son argent, entre guillemets. Et je trouve ces romans aussi, ils ont ce côté... c'est des polars, qui ont jamais un côté cheap, en fait, qui vont jamais tomber dans du graveleux ou dans des choses pour rien, qui ont toujours ce côté sec, qui font que même quand ils parlent de choses qui sont dures, c'est jamais, il y a jamais le côté vulgaire ou
cheapos. Le côté gratuit.
Ouais, voilà, c'est ça, qu'on peut trouver dans d'autres polars.
Après, ceci dit, je pense qu'il y a une espèce de savoir-faire de film court qui se perd, enfin, qui n'a pas vraiment perduré, parce que, je veux dire, quand on voit les films des années 30-40, c'était... Je cherche le titre d'un film noir, d'un très bon film noir. Bon, en même temps, je prends l'exemple d'un très bon film, donc c'est pas non plus, peut-être pas représentatif. Et je crois que c'est... Mais je me demande si c'est pas l'ennemi public numéro 1.
L'ennemi public numéro 0,
ah,
peut-être.
Ah, pas sûr. Non, pas le numéro 0. Je sais plus le titre. Bon, le film que adore Tony Soprano dans Les Sopranos,
ouais.
Qui était donc un film d'époque.
Oui, c'est l'ennemi public avec...
L'ennemi public tout court, c'est ça ?
Voilà, il me semble.
Ah, putain, voilà. Bon, voilà, c'est un film qui dure même pas 1h30, 1h20, 25 ou je sais pas quoi. Et ça te prend, donc ça raconte la vie d'un gangster, mais de enfant, l'ascension, la gloire, enfin le le règne, la chute, la mort. T'as toute sa vie, ça dure même pas 90 minutes, et tu ne restes pas absolument pas sur ta faim, t'as vraiment tout calé en moins de 90 minutes.
Ouais. Et moi, du coup, ça me faisait penser à un autre film qui était toujours comment ça s'appelle ? C'est un film qui s'appelle Détour, de Edgar J. Ulmer, où pareil, c'est un film avec extrêmement peu de moyens, toujours un peu un film, on peut dire, en travelling avant, ça avance tout le temps, qui avait cette réputation de film de série B, voire de série Z à la base, vraiment produit pour rien du tout, et qui arrive déjà par le scénario, les rebondissements du scénario, et après surtout par l'interprétation des personnages et par la mise en scène, qui arrive vraiment à devenir une espèce de classique de ce type de cinéma.
Eh bien, écoutez, je pense que nous, on a dit ce qu'on avait à dire. Et tant pis si ça dérange. On va laisser la parole aux gens qui savent bien. Donc, on va passer la parole à Galien Guibert et à Clément Tuffreau, qui ont eu la gentillesse de nous expliquer tout sur le film. Interview. Troisième partie de notre épisode du Grand Silence avec nos invités spéciaux, puisque nous avons la chance d'être avec Galien Guibert, le réalisateur du film Rien ni personne, et Clément Tuffreau, qui a co-scénarisé le film. Nous avons préparé moult questions. On va essayer d'aller relativement vite pour ne pas prendre tout le temps de nos invités. Mais on avait beaucoup de questions, et notamment par rapport à la thématique du podcast. Les questions qui nous tenaient vraiment à cœur concernaient la question de comment est-ce qu'on fait un film comme ça ? Quelle est l'aventure qui est derrière ? Donc, on va commencer par les questions qui étaient liées au scénario. Donc, Galien, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine du projet ? Est-ce que le scénario a beaucoup changé ou évolué depuis l'idée originale jusqu'à la sortie du film ?
Bonsoir. Alors, effectivement, c'est un scénario qui s'est développé, j'ai envie de dire affûté, mais bon, c'est un peu... qui s'est contraint petit à petit, finalement, à l'économie d'un long-métrage hors annexe. Donc, d'une part, artistiquement, il a beaucoup évolué. Et puis, finalement, il a aussi évolué dans sa forme et dans son volume jusqu'au tournage du film.
Alors, de ce que j'ai compris, en fait, il y a plusieurs scénaristes qui ont travaillé sur ce film. Alors, on avait une première question. C'était le fait que le premier scénariste du film, Jean-Baptiste Delafont,
oui,
a le même nom de famille que la compositrice du film. Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est quelqu'un de sa famille ?
Non, alors moi je travaille vachement en famille, en clan. donc il y a aussi l'actrice aussi qui est un peu qui est la même famille, une comédienne, Margot Delafont.
Oui, c'est ça qu'on avait remarqué dans le court-métrage Laura.
Voilà, et c'est mon frère Arthur qui a monté le film.
D'accord.
Tout un tas d'autres, je dirais, réseaux familiaux et amicaux.
Dont je ne fais pas partie.
Dont Clément fait partie.
Ah oui, amical, mais... pardon, mais il n'y a pas de lien sanguin, on va dire.
C'est complètement... C'est un film consanguin.
mais du coup, ce qu'on avait vu, c'était que donc, Jean-Baptiste Delafont, c'était le scénariste de Baron Noir, d'Argent et de Sang, donc très typé polar. Il a aussi fait le scénario de 16 ans ou presque, mais je ne sais pas si ça fait partie des choses qui ont influencé sur le choix. Comment ça s'est passé, le travail avec lui ?
Alors, en fait, c'est pas du tout un choix. C'est-à-dire, Jean-Baptiste Delafont est un scénariste qui m'a formé à l'écriture, en tout cas une forme d'écriture, à une manière de lire, à une manière aussi, voilà, d'inventer des histoires. Donc, c'est vraiment une relation profonde.
Vous connaissez depuis très longtemps.
Qu'on se connaît depuis très longtemps. On a écrit beaucoup de choses ensemble, ou des petites choses, des traitements, des choses comme ça. Et puis, à un moment, il est parti dans des aventures qui étaient ultra chronophages. On parle évidemment de séries. Et il m'a laissé un peu partir, quoi. C'est-à-dire, voilà. De toute façon, je crois qu'il fallait aussi que je fasse ce travail-là seul. Enfin, en tout cas, un voyage sur le scénario au sol. Et puis, quand j'ai l'impression qu'à un moment, la matière était assez mûre. En tout cas, moi, j'avais assez avancé pour aller voir quelqu'un avec qui finir le scénario. Et c'est là que j'ai demandé à Clément s'il pouvait jeter un œil et petit à petit rentrer dans les tréfonds du scénario, des personnages, des monologues, des dialogues, etc.
C'est une chose que les gens connaissent pas forcément par rapport au monde du cinéma, c'est le fait qu'un scénario, ça passe par beaucoup de phases, ça passe par beaucoup de réécritures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail comme ça, un peu technique sur le scénario? Comment est-ce qu'on fait pour écrire, réécrire, prendre du recul, savoir ce qui marche, ce qui marche pas, ce genre de choses?
Comme il disait Galien, il a parlé un peu vite des annexes, je sais pas si tout le monde sait exactement, c'est en fait en fonction des budgets. Et c'est des histoires de moyens et de budget. Et un scénario, il passe par beaucoup de comités de lecture, qu'ils soient privés ou publics. Mmh. Et du coup, en fonction de ces retours-là, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as des impasses, des impossibilités de financer. Et donc, tu composes, on va dire, et tu changes des choses, parce que tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à 90% des gens qui te lisent, ou à 15%. Donc, en fonction de ça, tu décides de changer, pas changer. Comme dit Galien, à un moment, il a arrêté avec Jean-Baptiste. On s'est croisés par hasard à l'Étrange Festival. On a eu une discussion sur Peckinpah, et complètement par hasard.
On est tombé amoureux, quoi.
Et voilà, on a une bonne amitié qui est née, quoi. Et on s'est recroisés deux jours après, en plus, complètement par hasard. Donc, c'était marrant, c'est venu assez vite. Et puis, ça a été le Covid, et Galien, comme il disait, il m'a proposé de lire le scénario. Je l'ai lu, ça m'a plu. Il m'a pas demandé d'écrire dessus d'abord, en fait. Petit à petit, il a fait ça discrètement. Il m'a demandé de lire le scénario. Ensuite, voyant que le scénario me plaisait, il a commencé à me proposer de faire des retours de lecture dessus, étant lecteur moi-même de profession pour un distributeur français. Et voilà, et petit à petit, il m'a proposé, là, pendant toute la première partie du Covid, on a bossé à fond, quoi. Pour les histoires de phases dont tu parles, c'est compliqué. Il y a des scénarios, je pense, il y a des projets rares qui se montent très vite, qui sont écrits vite, comme, je sais pas, j'ai deux noms absurdes qui me viennent en tête, mais Irréversible. C'est un film qui a été écrit très vite, par exemple, et il y en a d'autres qui mettent 15 ans à aboutir. Il n'y a pas tellement de règles, je pense. C'est assez compliqué. Ça, je pense, c'est vraiment en fonction des projets, de qui tu es, de quel acteur, actrice t'as. Ça va beaucoup plus vite quand il y a un acteur bankable, comme on dit. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs.
Ce que tu dis, c'est peut-être l'occasion excellente de faire la transition. Je vais passer la parole à Paul, parce qu'on avait une question par rapport au casting et au choix de Paul Amy.
Paul Amy, pour moi, c'est vrai que c'est peut-être pas un acteur bankable, mais un acteur qu'on a vu dans des films quand même assez connus, mais en second rôle, mais plutôt en premier rôle dans des films plus discrets, mais vraiment très très singuliers et très marqués. Bah, je pense à Malgré la nuit. Bon, il a pas le premier rôle dans celui-là, mais de Malgré la nuit de Philippe Gandrieux, mais sinon il y a l'ornithologue, Neuf Doigts, il fait partie de la bande dans Jessica Forever, et c'est quelqu'un qui a une certaine présence qui passe pas inaperçue du tout. Et moi, d'ailleurs, rien ni personne, je veux dire, le film, ça m'a d'abord fait tiquer pour cet acteur-là. Et ce qui fait que, surtout pour ça que je l'ai vu. Et en fait, dans le dossier de presse, vous avez dit que le rôle a été écrit pour lui. Et en fait, à partir de quel moment il a été écrit pour lui et à quel moment Paul Amy est vraiment rentré en jeu?
Alors, hyper vite, je dirais au bout de deux ans et demi, je me suis dit que c'était un film pour Paul. Et ça a été un peu mon phare dans la nuit, parce que j'ai jamais bougé par rapport à ça. Bon, y compris parfois avec des difficultés de financement, etc., etc. Mais bon, voilà, la qualité humaine est... Et quelque part aussi, c'est bien de reparler de ces films-là, parce que voilà, Paul, il portait un cinéma, quoi, un peu. Qui n'était pas un cinéma, je dirais, de pure exploitation.
Comme tu disais, ouais.
Ouais. Et c'est marrant parce qu'on en revient au scénario. C'est-à-dire qu'une fois qu'avec Clément, on a été à peu près content du matériau, j'ai été hyper inclusif avec les acteurs et les actrices. Et en fait, avec Paul, on a beaucoup travaillé sur le texte. Et d'autant plus que c'était un texte de peu de mots. Il y avait très peu de choses. Et en fait, avec les comédiens, on a continué, et avec Paul, on a continué à couper des choses, en fait. Et je crois que... Bon, là, on est plus sur la partie dialoguée, je dirais, du scénario. Mais à un moment, et ça m'a semblé vraiment hyper important, que comme il y avait peu de mots, que ce soit, quelque part, les mots des acteurs.
Oui, tu veux dire, quand tu dis inclusif, c'est qu'ils ont vraiment participé à l'appropriation des mots.
Ouais. Voire à la réécriture de certaines scènes. Ouais.
Et d'ailleurs, j'ai une idée que j'aimerais... parce que je pense que ça va vous amuser. Parce que vous parliez des phases d'écriture. Et dans les phases d'écriture, la plus importante, ça a été la place du bébé. Qui est une idée qui, en gros, était périphérique à un moment et qui est devenue hyper centrale grâce à notamment un ami de longue date de Galien qui est Xavier Jean. Oui. Et qui avait proposé... Donc, il y a eu toute une blague autour de Baby Cart. Oui. Et de ces choses-là, alors évidemment, c'est une influence très indirecte, mais voilà, ça a été... Il y a eu cette idée-là qui a été... On s'est dit de la mettre en avant un moment, à fond. Donc ça, c'était, par exemple, une grosse phase dans le scénario de changement.
Ça a été un changement d'axe, même.
Qui était tout d'un coup, ça devenait... Alors, même si c'est traité de manière très premier degré dans le film, ça devenait plus ludique. Parce qu'on se disait, ah, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu 15 000 fois. Et je sais pas si beaucoup de gens feront le rapprochement avec une bande dessinée japonaise des années 70.
J'avoue, j'avais pas fait le rapprochement, là, pour le coup.
Donc voilà, en tout cas, voilà, c'était une idée qui nous a plu et qu'on a voulu développer. Donc ça, c'était vraiment une vraie phase.
Bon, en tout cas, moi, j'avais capté.
Ok.
Non, moi non plus, mais maintenant que vous le dites, ouais, effectivement, plus j'ai le coffret sous les yeux, là, donc je vois bien. Ça donne envie de le revoir.
Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des scènes d'action avec le bébé qui soit présent. Et justement, ce qui est drôle dans le film, c'est que le bébé est constamment un obstacle à l'activité du personnage principal, puisqu'il faut toujours le ranger, le foutre dans une voiture, s'assurer qu'il a mangé, qu'il va pas niquer la transaction, etc. Et c'est vraiment intéressant la manière dont il est intégré.
Ah ouais, à fond. Qui a été une bonne galère, d'ailleurs. Si vous voulez en parler, Gagnon peut en parler, je pense.
Oui, bien sûr.
Non, on en parlera. On peut se faire un dossier bébé, quoi. Non, mais je crois que ce qui est intéressant en termes de scénario, c'est ce qu'on cherche tout le temps. C'est qu'est-ce qui va empêcher un programme de se dérouler, quoi.
Et là, c'est vrai que ça faisait une bonne épine, quoi.
Et là, c'est quelque chose de très beau. Puis en plus, en fait, dans le fond, c'était le sujet du film. Et c'est aussi... C'est intéressant comme parfois des changements de direction sur un scénario permettent aussi de le révéler.
Oui, c'est-à-dire que c'est du rebondissement, mais qui a du sens.
Tout d'un coup, c'est vrai qu'en travaillant, on s'est dit, bah oui, évidemment, c'est la question centrale, c'est la parentalité de ce mec. Et on va voir ça concrètement, comment ça marche.
Ouais, sachant qu'en plus, en termes de structure narrative, c'est un film qui est relativement simple. Dans le sens où c'est l'histoire d'un homme qui veut s'enfuir, en fait.
Absolument, ouais. C'est ultra assumé, cette simplicité. C'est ce que je disais hier soir, j'étais à Saint-Nazaire. Et en fait, dans le fond, je crois qu'il y avait l'idée de faire un film qui portait pas tant de références que ça, qui n'était pas tant un film cinéphilique, qui n'était pas tant un film qui avait trop regardé le cinéma américain, qui était un film brut, en fait. Presque brutaliste, quoi. C'est-à-dire vraiment une forme pauvre.
C'est marrant qu'il dise ça, Gagnon, parce qu'on a été vraiment en guerre là-dessus, et je pense que c'était une bonne guerre, une bonne complémentarité. Moi, je ramenais toujours des références, et Gagnon, il voulait toujours les effacer. Ouais. Pour justement, parce que c'est une de ses obsessions, il dit, Tu me coupes si je suis, tu vois, mais il veut pour donner une expérience un peu pure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le cinéma il est très très dans les références, très dans la. On a tous vu tellement de films. Et Gagnon il se dit, est-ce qu'on peut, voilà, comme il dit, presque pauvre, c'est dans ce sens-là, je pense. Ouais. Donner l'impression que ce film est pas trop référencé, quoi. Donner l'impression que c'est une histoire qui défile, qui est la plus simple possible, ouais. Qui est un fait divers de West France, quoi.
Et qui engage aussi la manière dont on va le filmer. La manière dont on va éviter de se lancer dans. Alors après, il y a la question économique, hein, bien sûr, qui est une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde quand on fait un film pareil. L'idée de ne pas fantasmer des plans que d'autres auraient faits, en fait. Voilà. Donc. Oui, c'est retrouver une forme de simplicité, absolument. C'est hyper assumé.
Oui, c'est l'idée, c'est que le projet soit animé par une envie plus personnelle qu'une envie plus animée par des influences extérieures.
Oui, c'est quelque part à un moment l'idée de mais c'est très théorique tout ça. C'est l'idée que est-ce que le film peut pas se nourrir lui-même en fait de son propre truc et de sa propre énergie et d'une certaine manière de l'énergie dans laquelle il a été fabriqué en fait.
Qui est un fantasme, mais qui est un fantasme intéressant.
Voilà, c'est quelque chose qui vient aussi au montage, c'est-à-dire de trouver la forme du film qui a été fabriqué et pas du film qui a été imaginé ou qui a été fantasmé. Donc, c'est pour ça, si on veut citer des références, je crois qu'on est plus. Déjà, c'est un film, je pense qu'il y a le goût et l'odeur du premier film. C'est-à-dire d'un film un peu brut, un peu sauvage, quoi. Et donc, voilà. Il y a peut-être des références à trouver dans les premiers films de certains auteurs urbains, noirs, etc. Quoi.
Mais c'est sûr qu'on avait beaucoup de discussions là-dessus. C'est-à-dire moi j'amenais des références et plus ça allait, plus Galien il voulait plus entendre parler de rien. Ouais. Pour essayer de mais parce que c'est aussi un truc d'âge, parce qu'on n'a pas 25 ans. Ouais. Et je pense qu'en vieillissant, tu te lasses de ces choses-là. C'est super les références, mais c'est des pièges. Et on est dans une société inondée d'images, inondée de culture. Et je pense qu'il faut faire attention à essayer de se dire au moins, même si c'est une conduite magique, de dire, vas-y, on se lance, l'histoire, elle existe toute seule, sans avoir à se référer, voilà, à ce que je disais tout à l'heure, quoi.
Mais du coup, est-ce que c'est déjà arrivé que vous sentiez que tel plan, telle scène, vous la construisez, a priori sans référence, et qu'au bout d'un moment, vous vous dites, ah, mais en fait, inconsciemment, ça vient plutôt de tel film? Et du coup, vous jetiez le processus ou
Non, pas du tout. C'est au contraire quand dans le travail. C'est du truc. Bon, ben allons-y quoi. Voilà. C'est-à-dire là, c'est organique. C'est pas un effet recherché.
D'accord.
Mais ce qui est sûr, c'est que dans les discussions, Galien, il éliminait. Et je pense que c'était vraiment un truc de. Pour se dire, oublions ces trucs-là. Essayons d'oublier au maximum. Alors que moi, j'ai une tendance à dire un peu, c'est un effet que j'appelle de jurisprudence. C'est-à-dire de dire, attends, comment, ça a été forcément testé par quelqu'un, ce truc. Fouillons, on va voir qui l'a fait, tu vois. Et alors que Galien, il se dit, ah, vas-y, on se débarrasse de tout ça, on fonce, on est à poil, on essaie de faire un film sans filet, voilà.
D'accord.
Donc ouais, c'était une espèce d'équilibre tout continu, mais c'était intéressant parce que justement, moi, j'ai tendance un peu à me vautrer là-dedans, alors que Galien, lui, se concentrait sur l'idée de faire un objet organique. Le moins composite possible.
Mais du coup, la question que je me posais, c'est le polar, c'est un univers qui est presque coexistant au cinéma et qui est ultra, ultra, ultra riche. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour réinventer le polar?
Alors, bon, c'est une question qu'on ne se pose pas, hein, évidemment. Bah, justement, c'est ce dont parle Clément, quoi. C'est-à-dire, justement, je ne sais pas si on réinvente, mais en tout cas, on se ferait un chemin à travers quelque chose pour être voilà, en restant organique pour essayer de trouver une singularité voilà pour essayer d'avoir une singularité dans un genre voilà c'est aussi un travail sur le genre en fait
mais c'est sûr que oui tu c'est peux pas échapper à partir du moment où tu choisis de faire un film noir notamment pour un premier film t'as derrière toi un tunnel sans fin de films et... c'est forcément intimidant mais ou pas enfin où tu te débarrasses du truc et tu dis allez j'y vais ça passe en partie je pense par des choix de décor. Enfin, tu vois, je pense que Galien, notamment le fait de choisir mettre de la voile, du portuaire, tout ça, c'est juste qu'on n'a pas trop vu, notamment dans le polar français.
Oui, voilà. Il y a deux choses. La forme du film s'est trouvée au montage. C'est à cet endroit où il était évident qu'on avait fait un film noir. Avant, c'était quelque chose, c'était une posture théorique, en fait. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est un polar français, est-ce que c'est au montage qu'à partir du moment où tout s'est recentré autour du personnage principal et de sa névrose, il était évident qu'on avait fait un film noir.
Mais là, t'as loupé un chapitre. Je pense qu'il faut que tu t'expliques ça.
Mais un vrai film noir au sens des années 50.
Faut que t'expliques que t'as épuré, du coup, au montage.
De machin, etc. Et...
Tiens, que t'as... Parce que tu dis... Oh là, Galien, il dit... Mais il y a eu pas mal de choses qui ont été élaguées. Pour justement tout recentrer sur Paul Amy. Alors qu'avant, il y avait un peu plus de choses autour. Et en recentrant sur Paul Amy, le film est devenu beaucoup plus...
évident.
Évident, ouais. Il était peut-être moins noir, comme tu dis avant. Il était au sens moins film noir avant. Ouais. Un peu moins, un peu plus.
Thriller.
Ouais, ouais. Et finalement, ben, en recentrant sur Paul, c'est devenu... je sais pas comment appeler ça, parce qu'après, c'est des trucs...
Moi, j'ai l'impression que c'est un film noir dans le sens où c'est le portrait... c'est le portrait d'un homme, d'une névrose et d'un milieu. Voilà. Et, que, et qu'il n'y a pas de décor... Il n'y a pas de décorum autour de ça. C'est vraiment... et, c'est un, et dans sa forme aussi, c'est un film qui est très sec, très tendu, très court.
Ce qui n'était pas forcément le projet initial. Oui, c'est ça.
Ouais. Et qui me semble aujourd'hui, il me semble, comme ça, en le regardant un peu de loin, qui me semble être tout à fait cousin du film noir des années 50. Quoi.
Parce que, alors, peut-être pour revenir un peu au casting, mais il y a la présence de Françoise Lebrun, qui a une actrice qui a une persona quand même assez chargée en rapport avec un film d'il y a 50 ans, donc La Maman et la Putain. Mais moi, je la vois souvent, disons, dans les films de ouais. Guillaume Niclou, qui a aussi beaucoup travaillé sur le polar très très sombre. Et donc j'imagine que c'est pas voulu, hein, vu ce que vous aviez dit avant. Mais peut-être du coup, ce que vous avez dit sur... Avec chaque du coup acteur actrice, vous avez retravaillé chaque personnage. Mais du coup, quelle place ça a pris dans le scénario final ?
En fait, ça prend une place, ça prend la place que ça doit prendre. C'est-à-dire que Françoise dit ça, je ne le dirai pas. Ça, je pense qu'il faut dire autre chose. J'ai l'impression que le travail, c'était surtout couper des phrases que en fait elle voulait jouer, mais pas dire.
Oui, après, il y a eu différentes implications. Paul a été là longtemps, donc Galien a passé du temps à travailler avec lui, alors que Soulian Brahim, elle est arrivée...
comme une balle, quoi.
Deux semaines avant, trois semaines avant, un mois.
Non, enfin... un peu plus, ouais. Mais avec Soulian, c'est pareil, on a réécrit... Soulian a réécrit des choses, précisé des choses sur son personnage, quoi. Mais moi, j'avais besoin de ça. En fait, ça me donnait aussi une sorte de moteur, ça me donnait du cœur à l'ouvrage, finalement. De savoir que nos interprètes prenaient leur part de responsabilité sur le texte.
Oui, et puis c'est commencer à incarner le personnage, d'une certaine façon.
Oui, bien sûr. Ouais. Et prendre sa part, en fait. Parce que si jamais on a coupé la mauvaise phrase... Alors évidemment, avec Clément, on veillait au grain de ne pas abîmer la mécanique. Parce que comme c'était une mécanique assez simple, il fallait surtout pas la... l'abîmer, hein. Donc ça on veillait au grain, mais je dirais sur la couleur des personnages, c'était quelque chose que je referais. C'était une joie de collaborer en fait avec les comédiens.
Et du coup, pourquoi Soulian Brahim en fait au casting?
Soulian, elle a lu le scénario, elle a vachement aimé, donc on s'est rencontrés et en fait il y avait quelque chose qui la touchait, je pense. Elle a une sorte de rapport à l'enfance, aux enfants placés, etc. etc. Donc il y avait quelque chose dans le scénario qui la touchait.
Et puis attends, nous on a vu La Nuée en avant-première ensemble. Voilà. Et Galien cherchait une actrice, on a vu La Nuée, le film a commencé, on s'est regardé au bout de 5 minutes, en mode...
Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Enfin après, je ne sais pas si je peux rentrer dans certains détails, mais en tout cas, on a vu ensemble voilà, le film, je ne sais plus, c'était une projection de Jokers, le distrib, je ne sais pas, quelques mois avant la sortie. Et Galien cherchait une actrice de 40 ans, un peu, voilà. Et le film commence, on la voit, et vraiment au bout de 5 minutes, on se regarde tous les deux, et il se dit, ah bah tiens, et boum, il lui a demandé, puis elle a dit oui direct.
Ouais. D'accord.
Et elle nous a fait un cadeau incroyable.
Donc ça vient de La Nuée, en tout cas. Ça vient de La Nuée.
Okay, vous n'êtes pas allé la chercher après avoir vu Doute. C'était vraiment La Nuée.
Doute.
C'est quoi
Doute?
C'est un film avec Christophe Barbier dans lequel elle a joué, mais il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc à chaque fois que je la vois, je pense à ça. C'est vrai.
Ouais. Non, moi je l'ai connue avec La Nuée.
Moi j'avais vu au Français aussi. Hein.
Oui, à la Comédie Française, oui.
Ah toi tu l'avais vu au théâtre. Ah
ouais,
ok.
Bien sûr. Et bon, espèce de présence scénique dingue. Enfin bon.
Et en tout cas, ouais, c'est comme ça que voilà, on a vu la nuée, on s'est dit ok.
C'est une actrice passionnante. Voilà, elle a fait vraiment un beau cadeau au film.
Ouais, elle mériterait de plus tourner, je pense. Mais bon, après, voilà, je sais pas pourquoi elle tourne moins.
Ah, peut-être justement la Comédie Française, ça doit occuper.
Ah, c'est vrai. Ouais.
Du coup, bah, je vais prendre le relais pour les questions. Okay, ouais. Alors, moi, je voulais plus aborder la question de la réalisation sur le film. On voulait savoir un peu, Galien, si vous pouviez revenir sur votre parcours, sur l'évolution en termes de moyens et d'équipe. C'est-à-dire que j'ai regardé les courts-métrages que vous aviez faits. Sur Laura, au générique, on voit que c'est une toute petite équipe. Mm-hmm. Qui est plus conséquente sur Lune Noire. Mmh. Et donc maintenant, vous passez au long métrage. Et voilà, et donc on se demandait un peu comment... est-ce que c'est une évolution qui se fait naturellement ou est-ce qu'il y a un coup de pression au début de se dire « Oh là là, je passe vraiment à quelque chose de plus important, plus...
» J'ai l'impression que c'est le l'équipe change pas tellement, hein, qu'elle soit petite ou un peu plus généreuse, etc. C'est le volume de ce qu'on fabrique qui change. Quoi. Le nombre de jours de tournage, le nombre de semaines, et tout cela implique évidemment, parce que le cinéma est gourmand, c'est vraiment un système gourmand, quoi. Les équipes grossissent parce qu'on tourne plus, parce qu'il faut plus de camions, parce qu'il faut plus de décors, parce qu'il faut plus d'hôtels, parce qu'il faut plus d'effets spéciaux, parce qu'il faut plus d'armes, parce qu'il, etc., etc. Enfin, c'est vraiment l'inflationnisme du tournage de cinéma, mais sinon, c'est assez naturel, quoi.
Cela dit, il y a des moyens de déjouer. Enfin, je trouve que, par exemple, on dit tout le temps qu'on peut pas faire, quand on a un petit budget, on peut pas faire plein de décors. Là, ils ont fait tout l'inverse. Mm-hmm. Et ce qui est super, parce que je pense que les plans du port de Saint-Nazaire, notamment... ça donne une impression de mouvement et de vie et qui voilà, et on se dit pas, enfin je crois pas qu'on se dise en voyant Rémi Personne que le film a eu peu de moyens. Il y a des films qui coûtent beaucoup plus cher et qui se passent dans trois pièces et une rue et donc voilà, autant c'était voilà, ça paraissait très ambitieux d'avoir autant de décors et de mouvements, et je trouve que c'est un des bons choix de mise en scène du film.
Justement, par rapport à tous ces décors, les décors en eux-mêmes ont vraiment été tous choisis avant. En pré-production, ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation, de réorganisation, que ce soit en fonction de l'évolution des choses ou de contraintes budgétaires ou autres, ou de contraintes de temps?
Les contraintes budgétaires, elles sont serrées à partir du moment où on commence à tourner. On sait très bien dans quoi on s'engage. Après, évidemment, il y a improvisation, certainement, et réorganisation quasiment quotidienne. Ouais. Évidemment, comme le dit Clément, la gageure d'un tournage pareil, c'était le nombre de décors, qui était vraiment irréaliste, qui était une folie,
ouais.
Dans notre économie.
Ouais, je ne sais pas si les gens se rendent compte, parce que ce n'est pas forcément beaucoup su, mais ouais, un décor, ça veut dire déplacer des équipes, ça peut vouloir dire déplacer des hôtels, ça veut dire beaucoup de transport, beaucoup d'essence, de train, de matos à déplacer, de décors à fabriquer, parce que les décors se fabriquent évidemment. Donc c'est à la fois du matériel, mais c'est aussi c'est énormément, énormément de facteurs économiques, en fait, un changement de décor. Et c'est pour ça que souvent, même des gros films, des films à gros budget, finalement, n'ont pas forcément beaucoup de décors. Et on dit souvent, faut minimiser les décors, faut en fusionner un maximum. Bon, là, Galien n'a pas du tout fait ça. Et je pense que c'est bien. Je pense que ça marche bien, ce côté-là. Et ça donne, on n'a pas l'impression, voilà, c'est pas figé, ça n'est pas un décor de série, quoi. Enfin, j'ai dit ça, pardon, ça veut rien dire aujourd'hui, mais bon.
Quand on dit petit budget, on pense tournage rapide. Mais néanmoins, voilà, ce qui nous avait vraiment marqué, c'était le travail sur la lumière, le travail sur le cadre, qui est très travaillé et qui est assez caractéristique aussi des courts-métrages que vous avez faits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour avoir une réalisation qui fasse vraiment cinoche, qui en mette vraiment plein la vue, entre guillemets, avec des moyens qu'on imagine limités?
Honnêtement, je pense que c'est l'âge et ma pratique graphique... plastique, artistique, et tous les différents métiers. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a
ouais, parce que Galien a un gros background de graphiste et d'artiste avant la réalisation.
Disons qu'il y a des automatismes qui font qu'on va très vite. Et puis il faut rendre hommage à la chef opératrice Raphaël, qui a su travailler très vite et vraiment avec une énergie incroyable. Donc il fallait installer les choses très vite. Et elle me courait après, en fait. C'est-à-dire que on commençait à tourner, elle n'avait pas fini sa lumière. Troisième prise, la lumière commençait à venir.
Et c'était déjà fini.
Donc ouais. C'était une espèce de bagarre entre ce que les comédiens devaient délivrer tout de suite en arrivant à la deuxième ou la troisième prise et la lumière qui avait besoin de se régler.
Parce qu'il y avait très peu. Tu tournais. Enfin, moi, j'ai pas été beaucoup sur le tournage, mais il y avait très peu de prises.
Très peu de prises. Ouais.
C'était sec. Mais c'est sec. C'est mais sec. T'es sec comme personne. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Ça se transparaît. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce que t'es très sec, très cut. Tout va vite. Il y a pas de gras. Il n'y en avait pas à l'écriture, il n'y en a pas au montage, il n'y en avait pas sur le tournage au niveau du timing. Donc tout ça, c'est assez cohérent, je pense, par rapport à la personne.
Mmh. Oui, et puis le film fait même pas 1h20, ce qui est rare.
Alors moi, j'avoue, je suis plutôt... Je voyais Quentin Dupieux parler de ça, et je suis assez d'accord avec ce que disait Dupieux. Il ne devrait pas y avoir de règles, en fait. En tout cas, voilà, on peut faire un très bon film de 3 heures, mais je pense que beaucoup de films sont un peu longs. Et c'est comme s'il y avait un tabou autour de ça. Moi, je trouve ça. Si le Galien et Arthur, son frère, au montage, ils ont trouvé le bon timing du film. Ouais. Et
la bonne forme. Quoi, la bonne
et
forme.
En fait, 5 minutes de plus, c'était sans doute trop. Alors, est-ce que ça perdait un peu de rythme ou ça en disait un peu trop sur des choses que Galien a préféré taire ou suggérer? Mais je pense que peut-être pas, les gens se disent pas assez ça, quoi. Enfin, après, moi, c'est mon obsession personnelle. J'aime bien les films bien rythmés.
Mais du coup, est-ce qu'il y a en termes de scènes coupées, il y en a beaucoup, pas du tout ou...
Je sais plus qui disait les scènes coupées, je ne peux plus en entendre parler.
Ouais. Elles ont été coupées pour une bonne raison.
Il n'y aura pas de bonus DVD.
On verra avec Arthur, le monteur, si on pense que c'est intéressant. Si c'est marrant ou intéressant, quoi. Mais sinon.
Après, je sais pas s'il y a tant de gras que ça. Hein.
Un peu.
Il y en a un peu, d'accord.
Mais des belles scènes, hein. Mais bon, à un moment, je ne veux plus en entendre parler.
Pour l'instant, en tout cas, quoi.
Et du coup, peut-être moi, j'ai une question en plus. C'est votre collaboration entre vous deux, artistique. Parce que, du coup, bah, j'ai vu vos courts-métrages et du coup, le long-métrage. Et j'ai lu Le Triomphant. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc en termes de brutalité sèche, quand même très rentre dedans, qu'on retrouve entre vous deux. Et en plus, bon, si vous êtes connus en parlant de Peckinpah, ça me paraît cohérent.
C'est drôle. Après, je pense que, alors, quand j'ai lu,
je suis plus romanesque.
À toi, c'est possible. Ouais. Mais quand on s'est rencontrés, le scénario avait déjà cette forme-là. Cela dit. Alors c'est peut-être aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on dit, c'est un prof qui me disait ça, il disait, c'est pas qu'on rencontre des idées, on trouve des choses qu'on cherchait déjà, quoi. Sans, c'est pas des surprises, donc on s'est entendu aussi parce que je pense qu'on avait une vision très proche. Et donc on a eu un débat sur Guet-apens de Peckinpah et le bouquin et le film, et on avait la même vision des choses. Après Galien a lu mes bouquins, il était d'accord, on cherche les mêmes trucs, quoi. Mais en tout cas ça vient pas de moi, c'était déjà dans le scénario.
D'accord.
Après, peut-être que j'ai aidé à le renforcer, mais je pense que ouais, à ce niveau-là, on était plutôt dans les mêmes intentions, quoi.
Martin, je crois que tu avais une question sur la rupture de ton, si tu voulais la poser.
C'est vrai que ça faisait partie des questions auxquelles j'avais pensé, qui avaient peut-être été un peu répondues, auxquelles on avait peut-être déjà un peu répondu dans les autres questions, mais ça m'a surtout marqué quand j'ai vu Laura ce matin. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai vu, il y a vraiment ce film où il y a vraiment une rupture de ton en cours de film. Ça commence par quelque chose de très d'histoire de très terre à terre. Ce que vit le personnage, les ennuis qu'elle a au quotidien sont très terre à terre. Et d'un seul coup, elle bascule vraiment dans le cinéma de genre, dans le survival.
Ouais.
On peut dire ça comme ça.
Ouais.
Et c'est ce que j'ai un peu retrouvé dans ce film-là, mais dans le film, c'est
le contraire, en fait.
Oui, voilà. Et donc voilà, je me demandais comment ça s'était décidé pour ce film-là, ce basculement de l'irréel au réel. Est-ce que c'est encore une fois des choses qui étaient présentes dès le scénario, ou est-ce que c'est la mise en scène qui a amplifié ça lors de la pré-production ou du tournage à proprement parler?
À mon âge avancé, il y a forcément un goût pour certaines choses, j'imagine, mais non, je crois que je crois que c'était déjà là dans le scénario, il me semble. C'était des ruptures. De toute façon, c'est un personnage qui est en rupture, qui ne fait, il ne fait que créer des trucs disruptifs, en fait. C'est le malheur de ce personnage. C'est son propre, c'est son, comment dire, c'est le malheur qu'il façonne lui-même aussi.
Mais tu veux dire que c'était une rupture, est-ce qu'elle a été pensée en amont ou est-ce qu'elle s'est découverte sur le tard?
Oui, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment, est-ce que la mise en scène l'a amplifié ou est-ce que c'est quelque chose qui, dès le scénario, vous décidiez de là, il faut qu'on parte complètement sur autre chose ou est-ce que.
Oui, le scénario était comme ça, ouais, bien sûr, mais ça a été évidemment renforcé par l'économie de moyens, par le montage, voilà.
Après, moi, je vais balancer sur Galien, mais ce qui est marrant, c'est que justement, je parlais dans la manière de fonctionner de la complémentarité des guerres entre guillemets hein, qu'on avait de discussion sur plus de références ou plus de genre ou plus chercher une histoire plus organique. Et moi, quand j'ai vu le film, j'ai été étonné parce que je m'attendais à quelque chose de plus naturaliste en fait. Et je pense que Galien, ce qui est intéressant dans sa manière de fonctionner, c'est qu'il tend vers le naturalisme. Il se dit non, il y en a marre des références, il y en a marre du cinéma trop référencé. Je veux faire une histoire qui tient debout, qui est organique, qui a l'air réel. Et en même temps, il a des pulsions esthétiques en lui. Il a envie de faire, il fait des belles images, comme vous disiez tout à l'heure, etc. Donc, j'aime bien en fait. C'est que du coup, je pense que l'histoire, elle était naturaliste et que t'as tendu, après t'as tiré de plus en plus vers ça.
Non, mais c'est même cette histoire de naturalisme et c'est une question que je me pose pas en fait. J'ai un théâtre en fait en tête, quelque chose qui est très théâtralisé, qui est très dans le fond, qui est très figé, et je m'accroche à ça. Donc que ça traverse Bresson, que ça traverse Audiard, que ça traverse Carpenter, que dans le fond c'est pas mon problème. C'est-à-dire j'essaye d'inventer un monde. Et même dans Laura, c'est complètement. Dans le fond, c'est complètement irréel. Rien ni personne, c'est complètement irréel. C'est complètement. C'est ce que je dis souvent, ces personnages ne sont que des fantômes, en fait. Il n'y en a pas un qui tient vraiment le coup. Si, peut-être Valérie à la fin, quand elle reprend son bateau. Mais sinon, ils sont tous flottants. Ils sont tous dans une sorte de théâtre d'ombre.
Il y a une réplique d'ailleurs qui en parle.
Voilà.
Quand il y a le boss du personnage principal, le Belge, qui dit il y a beaucoup de gens qui mentent. Ça, je peux comprendre, mais toi, je sais pas où t'es. Et voilà.
Voilà. Donc ça, c'est.
C'était la ligne thématique.
Moi, je trouve ça super parce que c'est bon. Voilà. Bah, après, c'est mon film, c'est mon petit film, mais. Mais je trouve ça super parce que c'est un monologue qu'a écrit Clément, qui a résisté à tout. En fait, il a résisté à toutes les réécritures, toutes les coupes, le tournage, tout. Il a résisté à tout et il est là au montage. Dans le fond, j'aurais même aimé qu'on fasse la promo du film sur ce monologue. Oui. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu veux. Mais j'espère que toi, tu sais.
Bah après, c'est ça, ce que disait Galien, c'est vraiment c'est la pure dynamique de film noir. Et c'est à ce niveau-là peut-être que c'en est un. C'est Portrait d'une névrose. Et comme souvent dans les films noirs, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et qui le fait malgré lui, c'est plus fort que lui. Je pense que si ça devait se résumer à ça, c'était chercher la vérité de ce personnage dans ce côté-là, quoi. Ouais. Quelqu'un qui va prendre que des mauvaises décisions, mais qui ne peut pas s'empêcher de faire autrement.
Extrait de la bande-son de Rien ni personne, composée par Camille Delafont. Sachez que la bande-son est disponible sur tous les sites de streaming qui se respectent. Enfin, j'imagine, personnellement, je l'ai vu sur Spotify. Donc, on remercie Galien et Clément d'avoir pris de leur temps pour parler du film. On espère que ça vous a donné envie de le découvrir. Le film va sortir dans peu de salles et donc il risque d'être un petit peu difficile à voir, mais sur l'affiche, on peut voir qu'il est soutenu par OCS, donc je pense qu'il sera visible sur la chaîne d'ici un an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est le genre de film qui vit plusieurs vies, en fait. Donc, il ne faut vraiment pas que ça tombe dans l'oubli. Il faut que ce soit un film qui fasse parler quand il sort et puis qui soit découvert si, après, qu'il y ait une vie un petit peu longue. Et puis surtout, on espère que c'est le premier film d'une longue série et que ce sera typiquement ce genre de film qu'on revoit après comme... A Following de Christopher Nolan, où on se dit, ah ouais, ben, y avait déjà deux, trois trucs de son futur cinéma dedans. Enfin, en tout cas, on lui souhaite.
Et petite note aussi, sur, spécialement sur le scénariste, donc Clément, sous le pseudonyme Clément Millian, a sorti un conte parisien violent, il me semble.
Ouais, son dernier roman, un roman excellent.
Ah, qui a été édité l'année dernière, ouais, 2023. Ouais.
Et qui est un petit peu l'inverse donc de Rien ni personne, puisqu'on y suit une adolescente qui ne fuit pas, mais au contraire stagne, puisque elle est fascinée par la place Stalingrad. Il me semble que c'est la place Stalingrad, j'espère que je truc que je besoin. Et par la faune qui vit, les clochards, les dealers et tout ça. Et alors que c'est une fille de flic. Va se rapprocher de plus en plus dangereusement de cet univers de trouble et dangereux. Très très bon roman.
Ah, je ne l'ai pas lu encore.
Mais par contre, Paul, tu as lu Le Triomphant, le roman précédent.
Oui, 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 j'avais lu Le Triomphant, oui.
Voilà, un excellent roman dans un style tout à fait différent, puisque c'est un roman qui se passe pendant la guerre de 100 ans. Et c'est une histoire de soldats qui devient berserk et qui se met à tuer indifféremment alliés comme ennemis et qui va être pris en chasse par un groupe de chevaliers voilà français plus un anglais il me semble et donc c'est une traque de cet homme fou. Il y a un côté à la fois très... Enfin, c'est un roman qui est extrêmement ancré dans la pensée médiévale, qui est assez fascinant, avec des scènes qui rendraient...
Bien barbare, quand même.
Ouais, qui envoie, quoi. Ça a la puissance d'un Conan le barbare, hein, je pense qu'on peut le dire.
Et, ouais, et puis c'est comme Rien ni personne, il y a aussi un côté fuite en avant. Vu que ce chevalier fou, il l'appelle la bête, il me semble, dans le livre. Il appelle la bête, se part de façon complètement incohérente, et le groupe les traque derrière lui, quoi. Donc c'est vraiment comme une course contre la montre.
Et c'est hyper bien.
C'est vraiment chouette, ouais.
Cool.
Tu voulais rajouter un truc, Martin ?
Ouais, moi, enfin, ça avait rien à voir avec tout ça. C'était juste pendant l'entretien, on a très rapidement parlé de Françoise Lebrun, qui a un petit rôle dans le film. Et voilà, juste pour une petite recommandation en dehors du film en lui-même, je voulais juste signaler sa participation au film de Jean Eustache, qui ont été invisibles pendant très 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 longtemps. et qui donc sont ressortis en salle l'an dernier et qui là maintenant sortent le mois prochain en Blu-ray chez Carlotta. Et c'est un coffret assez énorme, un gros travail avec énormément de choses. Et ça aussi, même si Carlotta, je m'en fais pas pour eux, quand même, je tiens à souligner la sortie du coffret parce que ça fait redécouvrir une œuvre qui avait été majoritairement invisible pendant très longtemps et que c'est le genre de choses qui sont aussi importantes.
C'est Carlotta qui sort le coffret ?
Ouais.
Ok, d'accord. Ah, c'était le film du Losange qui avait racheté les films et qu'ils ont dépoussiérés et sortis en salle.
Eh ben, on y rit, on ira.
ah ouais.
Mais après, effectivement, ouais. Enfin, c'est vrai que La Maman et la Putain, c'est un film qui va être idéal à découvrir en Blu-ray, puisque contrairement à Rien ni personne, c'est un film qui est très long. Mais vraiment très long.
3h30, oui. Qu'on ne sent pas passer, mais voilà.
Voilà. En compagnie de Jean-Pierre Léo, de Bernadette Lafont et de Françoise Lebrun. Ça va.
Voilà. Et donc, ma petite anecdote concernant La Maman et la Putain, c'est que je l'ai vu durant une fête du cinéma, quand il était ressorti dans les tout début des années 2000. Et j'avais le crâne tellement explosé en sortant que je crois que j'étais allé voir Spawn après.
Moi, La Maman et la Putain, je l'ai vu au théâtre. Voilà. Quand j'étais au lycée, on avait fait j'avais des cours de théâtre et les profs de théâtre nous avaient donné une liste de plusieurs pièces qu'on pouvait aller voir. On devait en choisir 3. Et donc, on a choisi La Maman et la Putain. Voilà.
Je savais pas qu'il y avait une version théâtre.
Bah si, dans mon souvenir, c'était plutôt bien. Mais je pense qu'ils avaient pas mal coupé par rapport à la version cinéma. Normalement, c'est le contraire. Il y a souvent des pièces de théâtre qui durent 2h30 et quand ça sort au cinéma, bah, ça devient des films d'1h10, 1h20, comme c'est le cas par exemple pour Le Dîner de Cons. Mais là, La Maman et la Putain, c'était... Je pense que ça devait faire 2h maximum.
D'accord.
Ouais.
Ah, parce qu'il y a des bêtes de monologues ultra longs, quoi, quand même, dans ce film. Donc, au théâtre, faut assurer.
Bah ouais.
Je sais pas, enfin...
Ouais, et puis, en plus, c'est tout sauf un film qui va droit, quoi. C'est un film qui prend des virages à 90 degrés toutes les 30 secondes. Il y a des tas de scènes qui servent absolument à rien, mais qui, en même temps, sont mortelles. Et c'est vrai que, pour terminer là-dessus, si je peux juste donner un conseil, à une époque, le script était publié dans une collection par les Cahiers du cinéma. Et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen d'aborder le truc, parce que c'est un texte vraiment absolument magnifique. Pour moi, c'est vraiment un des très grands textes du XXe siècle. Mais par contre, au cinéma, c'est vrai que c'est un peu rude parce que c'est très long. Et en plus, le film a un gros problème technique, dont je suis un peu curieux de voir s'il va être corrigé sur le Blu-ray. C'est que c'est tourné en son direct sur les scènes d'extérieur, et qui sont assez nombreuses, parce que c'est un film où on vit pas mal dans les cafés, au bord de la circulation. Ce qui fait qu'on n'entend absolument rien. C'est vraiment horrible, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que Jean-Pierre Léo est extrêmement Jean-Pierre Léo dans ce film.
Ouais.
Ça peut être fascinant comme ça peut être vraiment...
Repoussant, quoi.
Ouais. Moi, c'est un des films dont je pense qu'il est dans mon top 10, all time. Mm-hmm. Mais c'est pas un film qu'on regarde tous les jours. Et juste pour terminer sur le coffret, une attention particulière pour La Rosière de Pessac. Vous allez voir, c'est vachement bien. C'est un truc vachement bien, vraiment vachement bien. Et j'ai toujours pas vu Mes petites amoureuses, et je pense que ce sera la bonne occasion pour le découvrir.
Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire.
Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous.
Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas.
Je croyais que vous ne faisiez rien.
Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie.
Eh ben, sur ces bonnes paroles... et ce détour fait vers le cinéma de Jean Eustache. On vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi, suivant le moment où vous écouterez ça.
Ou une bonne nuit.
Ou une bonne nuit.
Ou un bon appétit.
Ou un bon appétit. Enfin, en fait, on vous souhaite tout le meilleur du monde.
Que quelqu'un vous tende la main.
Voilà, c'est ça.
C'est dommage de finir là-dessus, mais bon.
et que surtout, vous irez voir des très beaux films. Voilà.
Allez.
On réenregistrera peut-être la conclusion.
Bah non, elle est bien.
Elle est très bien, elle est très bien.
Voilà, elle est bien.
À la prochaine pour une rétrospective Olivier Goujon, on espère.
Mmh.
On sait pas, on verra.
C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là.
On va passer à la suite après ce chef-d'œuvre.
D'ailleurs, je tenais à dire un petit mot sur ce chef-d'œuvre d'Hippon, n'est-ce pas? Déjà dans l'extrait, on voit tout le non-dit du film.
Oui, c'est...
Le non-dit, et c'est même rempli de non-vues. C'est un film qui est tout à fait rempli de non-vues.
Je pense d'ailleurs que beaucoup de spectateurs iront le non-voir.
Il sent le sapin, le cinéma français.
Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu?
Mais putain de bordel du nom de Dieu! Ça vous arrive jamais de regarder les chiffres, non? Ben vous devriez, parce qu'ils sont pas rassurants, les chiffres.
Si vous aviez lu quelque part une phrase... Dans le genre 2, on trouve dans le film d'Henri Verneuil, au niveau de la structure, la dramacité et une symbolique qui lui est chère. À travers un thème central, il assure une continuité par une sorte de combinatoire des éléments, même quand ils n'ont aucune compatibilité immédiate, la distance entre les deux éléments étant toujours définie par une connexité variable des épisodes par rapport au thème central. Monsieur le Président, quand vous lirez quelque chose dans le genre « La thématique et la spécificité verneuillaise », alors là, vous pourrez dire à ce moment-là que je suis tombé dans ce cinéma, comme disait mon ami Henri Janson, où le public est de trop.